Avant d'interroger mon père sur ce qu'il m'a transmis, je me suis dit qu'il fallait revenir au commencement, à lui, ce qu'il avait reçu. Parce que je savais que c'était dans son éducation à lui que j'allais trouver les racines de la mienne.
Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment t'as été élevé?
Donc je suis le dernier de la fratrie et j'ai perdu mon père à 5 ans. Donc ma mère s'est retrouvée à élever 3 garçons toute seule. Et c'était pas facile. Contexte de guerre, de privation, de misère. Donc du coup, 3 garçons, qu'une femme très... Elle a l'habitude de dire, ma mère a toujours l'habitude de dire que pour survivre dans cette société, dans ce siècle, si on peut dire les choses comme ça, en tant que femme, il fallait être, elle valait un homme et demi. Pour survivre, il faut valoir un homme et demi. Je sais pas si c'est le verbe qu'il faut utiliser, mais j'ai mis longtemps à comprendre le pourquoi fermer ça tout le temps. Donc, ce qui fait qu'on a été élevé un peu à, pas à la dure, mais dans une rigueur. Fallait bien se comporter, fallait donner l'exemple. Et en même temps, elle nous élevait avec des valeurs de partage. C'est-à-dire qu'elle avait rien, mais elle donnait tout. Maintenant, je peux le dire, maintenant, des années, des décennies après, mais beaucoup d'amour.
Quand mon père parle de sa mère, j'ai l'impression qu'il parle de lui. Là, par exemple, c'est exactement comme ça que je décrirais mon père.
Ma mère, elle était brute de décoffrage. Quand il fallait te dire merde, elle te disait merde. Quand il fallait te câliner, elle te câline. C'est que c'était pas des garçons qui venaient mettre les pieds sous la table. Bon, on n'avait pas de table, mais peu importe. Tu arrivais pas à l'heure du repas et de dire bon, ma mère a dû tout préparer et tout, etc. C'est que chacun devait mettre la main à la pâte. Elle arrivait à imposer un fonctionnement, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit dans les tâches extérieures. Par exemple, il y avait pas d'eau courante dans les maisons. Il y avait pas de confort. Eh ben, on avait tour de rôle d'aller chercher de l'eau. L'eau, c'était la corvée des femmes dans la journée. Comme c'était mal vu d'envoyer des garçons au centre du village à la fontaine pour remplir les seaux, etc., ma mère avait trouvé l'astuce en disant « vous irez à la tombée de la nuit. Quand toutes les femmes sont rentrées, tous les hommes sont rentrés, donc vous y allez, vous ne croisez personne, vous allez augmenter donc les jarres, de remplir toutes les jarres d'eau, etc. » Donc ça, c'était une éducation. Nous, on trouvait ça normal quand il fallait se lever, par exemple, pour quelque chose et tout. Elle ne te disait pas « lève-toi, va chercher et tout », elle a toujours des métaphores. Hein, en disant que je traduis littéralement comme ça, mais c'est quasiment intraduisible, en kabyle, elle le disait, il dit « chacun ses articulations », c'est-à-dire les articulations du genou, parce qu'il fallait se déplacer, ou les articulations des bras, parce qu'il fallait faire un truc. Quand elle dit « chacun ses articulations », il fallait traduire « ben mon gars, tu te lèves et tu vas aller chercher ton truc ». C'était drôle, on comprenait ce qu'elle disait. Il fallait que je grandisse et que je m'intéresse un peu à toutes ces questions, etc., du partage des tâches ménagères et tout dans un couple, dans une famille, pour que je comprenne vraiment l'importance des métaphores qu'elle nous envoyait comme ça à la figure. C'est mieux que 40 discours, tout ça, en étant en alphabète, comme je le disais à ta maman avant, et je le dis à beaucoup d'amis femmes. Je dis, moi, j'ai pas attendu de lire Simone de Beauvoir pour devenir féministe. J'avais une mère qui était là, qui dressait tout ce monde-là à faire les choses. Il n'y a pas de tâches pour femmes, il n'y a pas de tâches pour hommes. Il y a des tâches, il faut les faire.
Avec tout le respect que j'ai pour Simone de Beauvoir, ma plus grande leçon de féminisme, elle vient de l'autre côté de la Méditerranée. Je l'ai héritée de Taoussat Saïd, ma grand-mère, qui a passé sa vie à revendiquer. Et c'était loin d'être la seule. Ici, l'artiste Taous Amrouche parle elle-même de sa mère.
Marguerite Taous Amrouche, je crois que votre mère est une femme extraordinaire.
Elle ne parlait que par proverbe. Elle avait toute la sagesse de notre terroir en elle. Elle me disait à la fois, pour m'amuser, elle a voulu imiter la démarche de la perdrix. Et elle n'a pas su retrouver celle de la poule. Ça, c'est pour m'indiquer qu'il fallait surtout être fidèle à soi-même, oui. Mais pas du tout plagier. Et puis alors, je crois que finalement, le grand enseignement, c'est le suivant. Elle me disait, mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait plaisir. Elle avait une mère qui... qui disait « Ce tatouage que j'ai au menton vaut mieux que la barbe des hommes. »
Voilà un peu comment j'ai été élevé par cette mère. Taous, d'ailleurs, tu portes le deuxième prénom. Je voulais que ça soit Taous. Taous Saïd, c'était un personnage, quoi. C'est une sacrée personnalité. Et puis... je pense que du fait qu'elle était veuve, du fait que peut-être aussi son histoire, au fait qui fait que elle est devenue comme ça.
C'est quoi son histoire?
Si tu veux, c'est une femme qui a été mariée très très jeune, 15-16 ans, un truc comme ça, dans son premier mariage, donc qui a mal tourné parce que elle est restée je sais pas quelques jours dans son premier mariage.
Premier mariage, elle part.
Elle part.
Elle rentre chez ses parents.
Elle rentre chez ses parents.
Ça va pas.
C'est pas son truc, okay. C'est pas celui-là, mais etc. Mais bon, pauvre, elle savait pas ce qu'il attendait après. Donc, étant divorcée dans la société kabyle, la femme divorcée, au fait, elle aurait du mal à se remarier avec quelqu'un de son âge. Donc, toutes ces femmes divorcées, jeunes et tout, etc. Et en fait, après, c'est des hommes beaucoup plus âgés, souvent des veufs, qui en seconde noce, pour l'un et pour l'autre, pour l'une et pour l'autre. Donc, elles épousaient des personnes beaucoup plus âgées. Ce qui fait que elle s'est mariée avec mon père, qui était beaucoup plus âgé qu'elle.
Ouais. Mais pourquoi t'as dit, elle sait pas ce qu'il attendait?
D'épouser un vieux.
Ah oui, d'accord.
C'était pas des mariages d'amour.
Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'elle t'a transmis? Qu'est-ce que tu as gardé de son éducation?
Ce que j'ai gardé, ce qui m'a marqué, que c'est comme ça, c'est cette éducation-là que j'ai eue, c'est la franchise. Ça coûte cher d'être franc. C'est la générosité. Comme je t'ai dit, elle donnait ce qu'elle n'avait pas. Je pèse mes mots. Hein, c'est que j'étais interne au lycée. Je revenais pour les vacances scolaires, j'avais plus rien à me mettre parce que toutes mes affaires, tout mes habits, mes pantalons, mes chaussures, mes trucs que j'avais à la maison, elle les a déjà donnés à des gens qui en avaient plus besoin. Et c'était, il peut y avoir d'autres points que j'oublie, mais ces trois-là, l'injustice, c'était quelque chose qui l'insupportait et que j'ai gardé. Elle nous disait toujours, quand vous pensez que c'est juste, il faut le dire.
Pour les femmes arabes, je crois qu'on a fait en sorte, depuis 14 siècles environ, que les écrits des femmes soient enterrés, soient effacés, soient supprimés. Et mon Dieu, quant aux paroles, on met bien plus souvent en avant, les paroles des pleureuses, de celles qui pleurent, de celles qui sont en deuil, et pas tellement celles qui revendiquent, celles qui s'opposent, et celle qui se dresse.
Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu as décidé de mettre de côté de ton éducation?
Disons que j'avais pris conscience très très tôt des enjeux, les mariages, arranger les familles, les bons partis, toute cette économie, je dirais, de sentiments, de filles, de garçons, de tout. À 16 ans, on était tous autour du foyer, du feu, là, et ma mère, en plaisantant, balance comme ça à la cantonade, il faudrait qu'on trouve une fiancée pour Slimane. Alors je lui dis, je vous prends tous à témoin, là, pour que ma mère comprenne, une bonne fois pour toutes, et je lui dis, reste tranquille, ne dépense pas ton énergie dans cette tâche, parce que moi, je n'épouserai jamais une cousine d'ici, et je n'épouserai jamais même une fille du village. Je sais pas où je serai dans 5 ans, dans 10 ans. Donc l'avenir décidera qui j'épouserai ou j'épouserai pas. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait un mariage mixte. J'ai rencontré ta maman, Salima, à Paris. Elle était étudiante à la Sorbonne, à l'Institut français de presse. Elle faisait sa thèse et moi, j'étais dans une autre université, et donc je l'ai croisé à Paris, ce qui fait que j'ai épousé une arabophone.
Oui, alors faut que t'expliques ce que c'est qu'un mariage mixte pour toi. Un mariage mixte pour toi, c'est avec une Algérienne, mais arabe.
Alors, ça, c'est l'histoire du mariage mixte. Quand je te dis ça, c'est une blague. Donc moi, quand ta maman, moi je pouvais pas rentrer en Algérie pour les raisons que je t'ai expliquées la dernière fois. Ta maman est allée rendre visite à ma mère pour connaître ma mère et voir où je suis né, ma maison, etc. Donc imagine, elle arrive, donc ma mère ne parle pas le français, ne parle pas l'arabe, ta mère ne parle pas le kabyle, et il a fallu que quelqu'un d'autre serve d'interprète pour que ma mère, n'était pas mariée, et ma compagne, puisse communiquer. Donc, pour tourner en dérision un petit peu cette situation un peu burlesque, dans le même pays, deux personnes du même pays se croisent dans la même maison et qui ne peuvent pas communiquer. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là que je dis c'est un mariage mixte. C'est pas la même langue, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes, c'est différent, même si c'est le même pays. La preuve, c'est que je te dis, elles peuvent pas communiquer.
Mariée, et là, vous avez un enfant, moi-même.
Oui. Alors, quand tu es né, quand je suis devenu père, moi, je crois que le plus important pour moi, je crois que pour ta maman aussi à ce moment-là, quand elle était là, c'était d'en faire une fille instruite et cultivée, libre, sentiment de liberté, le fait qu'on était tous les deux militants aussi, etc., était très très fort. C'est-à-dire que on voulait faire de toi une citoyenne, une fille libre avec son libre arbitre, et que pas un homme, pas même le père ou la mère qui déciderait de ton avenir, de ce que tu as envie de faire de ta vie. Donc très tôt, on débattait très très tôt. C'est-à-dire que j'allais pas te dire bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tout, etc. Mais tu avais toujours la liberté de dire oui, de dire non, d'argumenter, etc. Et moi, je me suis jamais contenté d'un non. Je tenais à ce que tu débattes, à ce que si tu dis non, dans tes arguments, et si tu me dis oui, c'était pareil. Donc je t'ai appris à débattre très très tôt. Bon, ça m'a coûté un petit peu parce que. C'est le retour du bâton. Hein, après, pour l'adolescence, etc., il fallait débattre de tout. Alors, c'est fatigant à la fin. Mais bon, mais j'étais pas mécontent de ma méthode.
Qu'est-ce que tu penses que tu m'as transmis d'Algérien ?
Il fallait t'élever, si tu veux, dans une culture du pays, donc la France, parler français à la maison et tout, etc. On n'oubliait pas d'où on est venu, quoi. Il y avait de la musique, beaucoup de musique algérienne. Il y avait beaucoup de discussions, l'histoire de la famille ou l'histoire de l'Algérie. Il y avait aussi cette volonté de savoir d'où on vient et où on va, sans se renier, sans passer pour ce qu'on n'est pas, etc. J'avais cette volonté de transmettre toutes les valeurs que j'ai reçues, etc. Kabyle, de solidarité, comme on disait, de franchise, de libre arbitre.
Est-ce que dans comment tu m'as éduqué, est-ce que à un moment tu m'as préparé à la possibilité de subir des discriminations ou d'être face à du racisme?
Oui, bien sûr. T'inquiète pas, c'est une question qui me taraudait depuis ta naissance. Je connais la société française assez bien, même très bien. On n'est jamais préparé à ces situations tant qu'on les a pas vécues. Moi, ma préoccupation première, c'était de donner tous les outils intellectuels, culturels, pour mieux te défendre. C'est pour ça que je te dis, je t'ai élevé dans une culture un mixte.
C'est d'ailleurs très, très intéressant, au fond, ce qui prouve qu'on ne peut pas aliéner un peuple par la culture. Une langue n'est pas aliénante, une culture ne peut pas être aliénante. Alors, malgré tous les efforts qu'on a fait pour nous franciser, en fait, la culture française nous ramène à nous-mêmes, ça porte aussi sur le peuple qui nous a aliénés. Parce que ce peuple est aliéné lui-même. Ça nous ramène à la parole de Marx. Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Bon. On peut dire qu'une grande partie, enfin, des avatars de la culture en France dépend de cette aliénation, est lié à cette aliénation. Par conséquent, le combat est le même. Le combat est le même. Et ici, enfin, en quelque sorte, les mêmes choses par lesquelles on a prétendu nous enchaîner nous libèrent. Ça, c'est un espoir.
Pourquoi tu ne m'as pas parlé en kabyle ?
Pourquoi je ne t'ai pas parlé en kabyle ? C'est faux, en fait. Je t'ai parlé en kabyle. Mais c'est vrai que, déjà, dès le départ, la situation était déjà compliquée dans ton enfance. Enfin, pour moi, je parle. Ta mère était arabophone. Moi, j'étais berbérophone. Donc, je te parlais en kabyle. Je t'apprenais des mots, le pain, l'eau, le truc, surtout autour de le soir ou au week-end, quand on mange et tout, etc. Je te faisais répéter des mots, etc. et tout. Ta maman faisait pareil dans sa langue maternelle, etc. Mais après, si tu veux, je j'ai pas oublié cette histoire de transmettre cette culture kabyle, etc. Je l'ai pas oublié. Pour preuve, je t'ai dit, je t'ai inscrit à l'association de culture berbère pour prendre des cours, pour apprendre le kabyle, etc. Parce que je voulais que l'apprentissage d'une langue, si tu veux, il se fait en général, du moins dans ma culture, c'est la mère qui transmet, histoire de langue, parce que c'est la mère qui est, c'est les mères, en fait, qui est élevée, etc. Moi, j'étais dans la situation inverse. Je me suis retrouvé seul avec toi. Donc, je devais faire les choses comme elles venaient, si tu veux, sans oublier qu'il fallait que je te transmette cette culture berbère, tout en essayant, en mettant le paquet pour en faire de toi une citoyenne, si tu veux, une d'ici. Donc j'avais, t'es d'ici, donc je voulais pas en faire de toi une fille qui a son corps ici et son esprit au bled.
Je pense que c'est plutôt ça. La priorité, c'était de s'adapter au pays, que je ne devienne pas moi aussi une exilée deuxième génération. Mais aujourd'hui, pour moi, comme l'a dit Wasila Tamzali, ces langues sont absentes, comme la pièce manquante d'un puzzle.
Et ce que je dis moi sur la langue française, tout en comprenant ce paradoxe extraordinaire, c'est que je ne parle que la langue française. Voilà. Et je réalise que j'ai deux langues maternelles. J'ai le français, puisque j'ai été éduquée en français, et j'ai l'arabe. Et l'arabe, c'est une langue absente. Et vous connaissez le poids de l'absence dans le présent. Il est très, très, très important.
Je ne peux pas te dire où ça a glissé, quoi. Disons que c'est pas pour me dédouaner, mais j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Je me suis battu avec ce que j'avais. Et puis, franchement, moi, c'était ça passait plus par la culture que par t'apprendre la langue en elle-même, quoi. Niveau culture, je peux le dire sans fanfaronner ni quoi que ce soit, et t'es pas mal armé, quand même. Je me dis, bon, la culture, c'est plus important que juste l'apprentissage de la langue. Mais bon, je sais pas où j'ai merdé, voilà.
Non, mais t'as pas forcément merdé, mais...
J'ai pas peur de le dire, sur cette question-là, j'ai pas été jusqu'au bout de ce que je voulais faire. J'ai pas peur de le dire, hein.
Qu'est-ce que tu voulais faire?
Mais c'est pas pour me torturer, hein, que je dis ça, hein. J'aurais voulu effectivement que tu parles cette langue.
Sans que tu me parles en kabyle.
Mais je te parlais en kabyle, mais...
Bah, tu pas me assez. Disais, ramène-moi de l'eau, c'est pas parler en kabyle.
C'était peut-être pas assez. Que tu fais ce que j'ai pu. Hein. Avec les arbres. Si, c'est grave. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme dirait l'autre.
Et à 33 ans, je suis retournée à l'association de culture berbère de mon enfance pour apprendre le kabyle. Entre nous, je pensais que ce serait facile, que mon oreille reconnaîtrait la langue. Après tout, je l'entends depuis mon enfance. Je dois avoir ça dans le sang. Eh ben, pas du tout. C'est de loin la langue la plus dure qu'il m'ait été donné d'apprendre. Mais je peux partager ça avec mon père.
C'est médicament. Le médicament. Douanier, qui lui a prescrit. Voilà. C'est diff que doit. Tu vois, je le parle.
Oui, mais tu le lis.
C'est écrit.
Oui, tu le comprends pas.
Il faut que je déchiffre.
Oui.
Et hier.
Pourquoi tu rigoles?
Ihir.
C'est quoi Ihir?
Comme ça.
Okay.
C'est
Ihir.
Une interjection Ihir. Alors. Ihir. قريت وجبت الدبلوم وهلا لا 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 اقول لي واش فهمت اليوم وهلا لا 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 انا خطي مسطور ما كاين والو خير من الامور